Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Comme chaque mercredi à 17h30, voici le magazine Lille 1 Info. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on va parler aujourd'hui de réseaux sociaux et notamment de réseaux sociaux à l'Université Lille.
C'est ça, exactement.
Donc vous avez vous-même fait des études autour des réseaux, autour de l'informatique à l'Université de Toulouse, je crois.
C'est ça, en fait j'ai pas fait d'études exactement dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans la communication, on va dire un peu plus généraliste, c'est-à-dire aussi bien papier que web, et je me suis spécialisé au fil des années dans mon métier dans le web et plus particulièrement dans les médias sociaux.
Donc quand on dit médias sociaux, bon, pour les gens des nouvelles générations c'est assez évident, mais pour d'autres on peut peut-être dire qu'il s'agit de...
Alors il s'agit de... c'est apparu il y a quelques années, ça s'est progressivement imposé sur le web. Le plus courant, celui qui est le plus utilisé, c'est Facebook, mais ça peut être... c'est une quantité d'autres réseaux sociaux. Ça peut être aussi Twitter, ça peut être aussi YouTube, ou même des réseaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Et plus, on va dire de manière plus généraliste, c'est le principe en fait qui permet à des personnes d'être connectées entre elles et de communiquer entre elles et de pouvoir échanger aussi bien sur leur passion que sur leur quotidien. Et c'est une façon de se comporter sur Internet qui est apparue il y a environ, je dirais, entre 2 et 5 ans et qui s'est au fil à mesure imposée. Et la volonté de l'université actuellement, c'était de pouvoir répondre à cette nouvelle tendance. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé en septembre dernier.
Alors effectivement, est-ce qu'on peut dire que ces réseaux sociaux révolutionnent l'université? On sait que ça a révolutionné les pays du Maghreb là récemment, puisque ça chatte bien et ça communique indépendamment des réseaux de communication institutionnelle, on va dire, et des réseaux autorisés, entre guillemets. Donc effectivement, ça apporte une certaine forme de liberté. Comment on peut utiliser, j'allais dire exploiter cette liberté dans un cadre d'une université? Qu'est-ce que les étudiants ont à y trouver qui dépasse le cadre de la vie privée? Et comment l'université s'adapte à ces nouvelles technologies?
Alors juste pour répondre au début de votre question, avant tout ça a révolutionné, enfin si on peut utiliser le terme révolution, c'est ça a révolutionné la façon de se comporter sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, l'utilisateur allait sur Internet pour avoir une information, et donc il recevait cette information-là et ça s'arrêtait là. Et avec l'avènement des réseaux sociaux et ce qu'on en appelait avant le web 2.0. Et il y a eu cette possibilité pour les utilisateurs de pouvoir interagir avec le contenu et de pouvoir aussi bien le commenter, le partager. Et c'est cette façon d'utiliser qui a vraiment changé l'Internet, car désormais les marques ou même les institutions ne peuvent plus se contenter juste d'informer, de donner une information sur leurs produits ou sur ce qu'elles font au quotidien. Elles doivent aussi prendre conscience qu'il y a des personnes derrière qui vont relier cette information, qui vont les commenter, donner leur avis, aussi bien positivement que négativement. Et les réseaux sociaux sont, on va dire, cette plateforme où toutes les personnes peuvent donner leur avis. Et ce que ça permet aux étudiants, concrètement, c'est pour eux la présence de l'université, donc de Lille 1, dans les réseaux sociaux, ça leur permet de communiquer avec nous, tout simplement. Et ce qui n'est pas forcément évident quand on est un lycéen, par exemple, qu'on ne connaît pas forcément comment fonctionne l'université, quelles personnes on doit contacter, d'avoir une page Facebook de l'université, comme ça arrive assez régulièrement, la personne peut s'adresser vers nous très simplement, sans passer par le téléphone ou un courrier ou une adresse mail, et on peut leur répondre de manière quasi automatique. Et ça permet de vraiment créer un lien différent et de pouvoir créer aussi une sorte de sentiment d'appartenance et d'échange avec l'université. Donc c'est principalement ce que ça a changé, de pouvoir vraiment interagir et de créer un lien tout simplement, même si a priori il n'est que virtuel. Et enfin, dans votre question, vous demandiez également si il y avait on va dire un aspect plus négatif entre guillemets dans l'approche des réseaux sociaux. Et c'est ce qui est un peu au début était question quand à l'université quand je suis arrivé, est-ce qu'il faut vraiment être présent car il y a toujours un risque, c'est-à-dire les personnes peuvent parler ou discuter et sur l'île et dire en dire aussi bien du bien que du mal. Donc obligatoirement on a toujours une certaine appréhension à y aller. Mais au final, même si des personnes discutent et parlent de manière négative de l'université, c'est toujours un moyen pour nous de savoir ce que l'on fait pas bien et ce que l'on peut améliorer et de leur apporter une réponse. Donc moi je vois que du positif dans les réseaux sociaux.
Non, si on regarde le site de Facebook et notamment la page qui concerne Lille, on voit qu'il y a 882 personnes qui aiment. On ne voit pas trop les amis. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont repérables ou est-ce qu'il faut être inscrit sur une liste pour les voir?
Alors, ça c'est une page, comme on appelle une fan page en fait. C'est tout simplement une page de présentation de l'université où les gens doivent devenir fans en fait pour pouvoir avoir les informations, les dernières informations de l'université. Donc, c'est pas vraiment une page d'amis entre guillemets. Comme on peut voir par exemple si on va sur Facebook, si on a un profil personnel où on peut voir ses différents amis, c'est pas exactement la même chose parce que là c'est pour tout simplement s'abonner à une sorte de flux d'informations de la fanpage de l'université. Et donc par exemple un étudiant ou un futur étudiant qui va dessus, qui clique sur j'aime, il pourrait être tenu régulièrement informé de toute l'actualité de l'université. Et également venir sur le mur de la page Facebook, donc c'est comme ça qu'on appelle ça, et sur le mur, il pourra soit discuter avec des étudiants ou discuter directement avec nous en nous posant des questions comme c'est le cas au quotidien.
Comment vous faites la part entre les visiteurs extérieurs et les étudiants, justement, à partir de ceux qui aiment cette page?
Alors, c'est-à-dire qu'on a, à travers les réseaux sociaux, les différents réseaux que l'on a, on a pu cibler sur différents types de personnes qui étaient intéressées de près ou de loin par l'université, et donc différents, on va dire, entre guillemets, cibles. Et c'est vrai que maintenant, avec à peu près de 6 mois de travail sur les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est principalement des étudiants qui sont déjà au sein de l'université, qui s'abonnent pour se tenir au courant. Et aussi beaucoup de futurs étudiants qui s'abonnent pour savoir quel est le quotidien de l'université, qu'est-ce qu'ils vont y découvrir. Et les personnes qui sont, on va dire, plus extérieures en fait à l'université, c'est-à-dire qui ne soient pas étudiants ou qui veulent juste avoir des informations sur l'université, eux vont plus avoir le réflexe d'aller sur le site institutionnel pour se tenir au courant ou pour voir tout ce qu'il y a de fait comme formation, comme recherche, etc. Mais la démarche d'aller sur les réseaux sociaux, elle est plus engageante, dans le sens où on a envie de connaître quelque chose d'un peu moins institutionnel, de plus simple, où on a une volonté surtout d'afficher son appartenance à l'université.
Alors, sur la page de l'Université Lille 1 sur Twitter, là on trouve des infos qui sont un peu rédigées de manière différente. C'est-à-dire que ça donne beaucoup d'informations déjà sur l'université, sur des événements et sur, par exemple, je vois des programmes, soit de télévision, de Lille 1 TV, voire de cette émission d'ailleurs, Lille 1 Info. Donc on a déjà des contenus plus formels, plus précis.
Oui, alors Twitter, c'est vraiment une toute autre façon de communiquer sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que en fait chaque réseau, donc chaque communauté finalement a son propre langage. Et celle de Twitter est bien particulière dans le sens où un message que l'on envoie à sa communauté doit être limité en contenu, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir que 140 caractères. Donc obligatoirement, ça oblige à une certaine forme de communication qui est un peu différente. On fait beaucoup d'abréviations. Et le contenu, enfin l'information qui est diffusée à travers chaque message, en fait, c'est surtout pour informer de tous les événements qui a lieu au sein de l'université ou même à l'extérieur, à Lille, qui sont liés de près ou de loin avec les sciences et la technologie, et également tout ce qui fait la vie du campus. Donc ça peut être évidemment la vie culturelle ou la vie sportive, etc. Donc là, c'est vraiment pour donner un aperçu de tout ce qui se passe sur le campus et en dehors du campus, lié de près ou de loin à l'université.
Très bien, donc on voit au travers de Twitter des magazines de Lille 1 TV, par exemple celui-là. Ça, c'est l'indicatif de Lille 1 TV. Une série d'émissions, là c'était sur l'ours par exemple.
Dernière étape de ces journées consacrées aux nouvelles technologies, à l'éducation, dans l'éducation, à l'université de Lille 1. Et donc nous sommes dans le cadre de ces journées du SEM, de la journée de l'ours, avec nos invités. Tout d'abord, je voudrais présenter Thierry Danquini qui est directeur du SEM. Est-ce que ces journées qui se terminent aujourd'hui pour vous sont un objet de satisfaction ?
Voilà, donc vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Lille 1 TV, bien sûr, mais aussi au travers de Twitter qui vous renvoie sur la même page d'ailleurs, hein, de Lille 1 TV. Donc le SEM travaille autour de ces nouvelles technologies numériques et la mise à disposition de ces technologies auprès des enseignants, des chercheurs et des étudiants. Est-ce que vous êtes en liaison avec le SEM?
Oui, bien sûr, au quotidien. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je parlais que des réseaux sociaux qu'on peut appeler propriétaires, c'est-à-dire Facebook ou Twitter, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui sont développés par l'université et donc par le service multimédia, donc par le SEM. Et par là, j'entends donc le Blogs Lille 1, en fait, qui est le réseau social qui a été créé par l'université et donc par le SEM. Qui permet tout simplement aux étudiants d'échanger des cours, de s'informer sur ce qui se passe dans leur formation. Et donc ça a été créé par le SEM, et ça d'ailleurs ça marche très bien, c'est un très bon réseau social et j'invite tous les étudiants à s'y rendre, car il y a aussi des professeurs, c'est pas uniquement dédié aux étudiants, il y a aussi des professeurs et des enseignants qui échangent et qui mettent leurs cours en ligne dessus. Et donc obligatoirement je suis amené à travailler avec le SEM avec eux parce qu'ils sont très on va dire au courant et ils ont une réelle volonté d'être présents sur ces réseaux sociaux.
Donc si on va sur Blogs, BLOGS Lille 1, on trouve ça, hein, Blogs Lille 1. On a à la fois des fichiers qui sont déposés par des étudiants, on a aussi des enseignants qui s'y retrouvent, et on a de nombreux membres, et on voit toutes les têtes de nouveaux membres qui apparaissent en haut de cette page. Quelle est la part de mise à disposition du grand public et la part qui reste relativement privée, restreinte à l'université Lille 1?
Alors, Blogs Lille 1, c'est vraiment destiné aux étudiants. Donc c'est vrai qu'il y a aux étudiants et aux enseignants de Lille 1. Donc c'est vrai que la vocation externe, le public extérieur va pas vraiment être intéressé. Mais il peut tout à fait, un ancien étudiant peut s'enregistrer sur Blogs Lille 1. Mais c'est vrai que là il y a une volonté de diffuser les cours et de mettre à disposition des cours et d'échanger sur le quotidien de la formation pour les étudiants. Donc c'est vrai qu'un public extérieur n'en aura pas vraiment d'intérêt de s'y inscrire. Il aura plus d'intérêt à se connecter, à suivre le Twitter de l'université, car là, il pourra être au courant un petit peu de l'actualité, aussi bien scientifique que de l'université. Donc, Blogs Lille 1, pour répondre à votre question, est vraiment à vocation interne, entre guillemets, et pas du tout extérieure.
D'accord. Il y a quand même pas mal de choses qui sont accessibles de l'extérieur en termes de vitrine, mais bon, ça c'est pas l'intérêt, on va dire.
Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on laisse la possibilité, sans être connecté, de pouvoir voir plusieurs choses en fait de Blogs Lilin, c'est tout simplement parce que ça permet de montrer ce que fait l'université sur les réseaux sociaux et auprès de ses étudiants, et quels sont les services numériques que l'on peut proposer à nos étudiants.
Voilà, donc maintenant, comme on l'a dit, hein, de nombreux étudiants ou de personnes en général se retrouvent sur ces sites. Certains craignent que ce croisement d'informations qui sont récupérables d'un site à l'autre serve finalement une grande base de données qui permette à certaines zones obscures ou certaines forces obscures de garder la mémoire de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est fait et de ficher un peu les personnes qui s'y trouvent. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce genre de choses ?
Alors, peur, je ne pense pas. Être prudent, certainement. C'est-à-dire que, effectivement, c'est des sociétés privées qui gèrent Facebook, qui gèrent Twitter, qui gèrent Viadeo, LinkedIn, etc. Donc c'est des sociétés privées qui ont un but commercial. Ça, il faut bien l'avoir en tête, et en ce sens-là, il faut faire attention à ce que l'on met comme information lorsque l'on s'inscrit sur des réseaux sociaux. Et également, il faut bien avoir en tête que être sur Facebook ou sur Twitter, ce que l'on dit, c'est, même si c'est dans le cadre privé, en fonction de comment on a configuré son réseau social, c'est visible, ça peut être visible du public. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est aussi bien dans ce que l'on a comme information lorsqu'on en s'inscrit, et de donner le minimum, j'ai envie de dire, syndical, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, et ensuite dans ce que l'on dit aussi sur le mur ou à d'autres personnes, de bien avoir en tête que ce que l'on dit peut être vu par d'autres personnes. Et bon, on a vu le cas de très nombreux cas récemment où des personnes disaient du mal de leur entreprise sur Facebook, et se retrouver licencié parce que ça avait été vu, ça s'était su, et tout simplement ça dépassait la sphère privée. Donc il faut faire attention, il faut être prudent. Après, je pense pas qu'il faut avoir vraiment une peur atroce de ces réseaux, car ça offre beaucoup de choses, mais comme tout, il faut savoir l'expérimenter et on va dire gérer ce que l'on y dit.
Alors Denis Migaud, vous disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de réseaux sociaux et que selon la personnalité, peut-être l'objet, le projet professionnel, on pouvait passer de l'un à l'autre. Néanmoins, justement, si une personne qui fait de la ressource humaine, on va dire, cherche des informations sur une personne, il peut très bien tomber et croiser les informations et voir qu'il est... par ailleurs militant de ceci sur tel site ou il prend des positions sur un autre site, est-ce qu'il y a quand même un danger et des précautions? Vous venez de dire il y en a, mais jusqu'où on peut s'attendre à avoir une répercussion, notamment dans le domaine professionnel?
Oui, tout à fait, ça c'est vrai que c'est l'une des grosses actualités en termes de ressources humaines, c'est cette possibilité d'aller voir ce que font les personnes et ce que sont vraiment les personnes. Et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle dans le métier le name branding, c'est-à-dire tout simplement quand on tape son nom sur Google, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce que l'on peut trouver. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où il faut être assez précautionneux quand on dit des choses et quand on s'inscrit sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des comptes fermés qui ne sont pas accessibles au public et qui sont accessibles seulement à des personnes que l'on a choisies. Et donc ce qui fait que l'on peut diffuser des informations qui seront reçues uniquement par des personnes de notre choix. Et ça, c'est ce que j'invite tout le monde à faire, ça, tout simplement, parce que ça permet justement à des personnes qui sont extérieures à notre réseau ou une personne qui recherche à avoir des informations sur nous, de ne pas avoir accès à ces informations qui peuvent être de l'ordre privé. Et c'est vrai que maintenant, si vous demandez à n'importe quelle personne qui travaille dans les ressources humaines, dans la quasi-totalité des cas, lorsqu'elles reçoivent un CV, avant de recevoir la personne, elles vont taper son nom sur Google pour voir ce qu'elles peuvent y trouver, et aussi sur Facebook pour voir si elles peuvent avoir leur profil, parce que ça leur permet tout simplement d'avoir une information, on va dire, autre que celle donnée par le CV. Donc juste, il faut être prudent et s'assurer que ce que l'on dit et fait reste dans sa sphère privée.
Bon, c'est vrai qu'on peut tomber aussi sur des homonymes, bon, ça,
ouais.
Ça peut arriver, mais c'est vrai que si on croise un peu les choses, on voit la ville ou la région, donc on peut quand même avoir une idée assez précise de la personne dont on fait la recherche, sur laquelle on fait la recherche.
Oui, mais après, juste, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu anxiogène qu'ont beaucoup de personnes vis-à-vis des réseaux sociaux et de l'Internet, c'est que il y a même des. Récemment, il y avait une personne de Google qui disait que il fallait même peut-être pouvoir à terme pouvoir changer de nom pour éviter d'avoir, quand on tape son nom sur Google, des, on va dire, des dossiers un peu trop lourds. Mais je pense que ça serait un peu. C'est un peu réducteur de résumer les réseaux sociaux à ça, car ça permet tellement de choses que finalement. C'est un élément qui peut être négatif que l'on peut retenir de ça, mais qui pour moi est noyé entre guillemets sur tout ce que cela permet, et notamment de pouvoir rapprocher les personnes, de pouvoir vraiment créer du lien, même si ça reste du lien virtuel, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Et c'est juste qu'il faut faire ça, j'ai envie de dire intelligemment, c'est tout simplement d'être prudent. Mais c'est juste du bon sens. Après, si on prend quelques petites réserves dans sa façon d'être dessus, il n'y a vraiment aucun souci.
Une dernière blague un peu anxiogène,
oui.
Aussi, on terminera là-dessus. C'est quelqu'un qui s'est fait dérober son code d'accès à Facebook, et quelqu'un d'autre écrit à sa place des choses pas forcément intéressantes.
Oui. Oui, bah ça arrive. Hein, c'est pas Facebook, on va dire, est pas à l'origine de ça. Ça existait avant avec les adresses mail ou avec n'importe quel compte. Ou dès lors qu'on est un peu malin, qu'on touche un peu à l'informatique, on peut trouver les codes de la personne. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça, c'est pas spécifique à Internet. C'est-à-dire que des personnes qui ont des mauvaises intentions, il y en a toujours eu. Et c'est juste un nouveau média qui permet à ces personnes-là d'agir. Donc une fois de plus, il faut être prudent, et ça passe aussi par changer son numéro de compte, son login, son password régulièrement, et faire attention à ce qu'on dit une fois de plus.
C'est vrai que c'est très dur une fois que quelqu'un a le code de réavoir accès, puisque la personne fait elle-même un autre mot de passe et on n'a plus du tout accès au compte.
C'est ça. c'est un peu compliqué, mais il existe toujours un moyen, tout simplement en contactant Facebook ou enfin, n'importe quel autre réseau social, ou même une boîte mail où l'on a un souci. Et car il y a également les amis. Les amis que l'on a peuvent signaler ça à Facebook. Je pensais notamment, qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais sur ce cas-là aussi se rencontre sur des forums ou même sur des jeux en ligne, où une personne vole l'accès et a un comportement qui est différent de la personne normale, enfin qui a son compte, et tout simplement ça arrive de temps en temps, et les personnes que l'on côtoie, tout simplement en signalant ce genre de comportement-là, peuvent éviter tout problème. Donc c'est aussi la volonté, enfin ce que permet aussi ces réseaux sociaux là, c'est un peu entre guillemets de s'auto-gérer, de s'auto-réguler, car les amis entre eux font attention au compte de leurs proches, et donc signalent tout abus et peuvent limiter les mauvaises conséquences de ce genre de situation.
Voilà, donc on va revenir à des choses plus positives. L'intérêt aussi d'Internet et des réseaux sociaux, c'est qu'ils s'étendent au monde entier. Et donc, quand on a fait des études dans un endroit, qu'on repart dans une autre ville, voire un autre pays, on peut retrouver ses amis, ses collègues, et puis échanger encore avec eux à distance, ce qui fait tomber les barrières justement de la distance pour des activités qui sont pratiquement localisées en étant très très loin.
Oui, ça c'est le gros avantage d'Internet. Et notamment, moi je vois au quotidien, en fait, j'ai des questions d'étudiants, et beaucoup d'étudiants étrangers qui, évidemment, en allant sur le site de l'université, n'ont pas forcément une vision globale ou on va dire, très proches de ce que peut être l'université, et les réseaux sociaux leur permettent ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent échanger avec d'autres étudiants, qui peuvent comme ça échanger leur expérience, ou me poser des questions directement pour savoir tout simplement les formalités administratives, ou comment vont se dérouler leurs cours, etc. Donc ça permet vraiment de créer un lien déjà plus simple, et aussi de rapprocher et surtout de diminuer les distances entre les personnes.
Donc on peut aussi imaginer que la base Lilin, par exemple, puisse communiquer avec des étudiants qui sont en stage à l'étranger, très très loin, et justement pour avoir non seulement des nouvelles, mais aussi leur apporter des éléments de la matière pédagogique.
Oui, tout à fait. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que quand je disais que la volonté d'être sur les réseaux sociaux, c'était aussi animé par une nécessité de créer un sentiment d'appartenance à l'université, ça, concrètement ça se matérialise comme ça, c'est-à-dire que si un étudiant de n'importe quelle formation s'en va à l'étranger ou en stage dans une entreprise, etc., le fait de pouvoir s'adresser après à son université, pour soit pour faire part de son expérience et soit pour tout simplement communiquer, c'est pour lui c'est un réel plus, et ça lui donne vraiment cette sensation de faire partie d'une même communauté, et donc ça permet vraiment ce rapprochement comme pour reprendre le même terme, le sentiment fort d'appartenance à l'université.
On peut aussi imaginer un jour un contrôle de connaissances comme ça, qui se fasse en délocalisation.
Oui, alors là ça dépasse un petit peu le cadre des réseaux sociaux, ça va, mais ça peut, c'est tout à fait possible, c'est même possible dans, c'est déjà possible et déjà fait, pas à sein de l'université, je pense encore à Lille 1, mais ce qui se passe à l'université actuellement à Lille 1, c'est par Moodle, qui est un autre service numérique de l'université, qui permet d'échanger beaucoup de cours, et qui permet donc à un étudiant qui n'a pas forcément la possibilité d'être présent, ou qui est en déplacement ou quoi que ce soit, il puisse avoir justement les cours auxquels il a raté, ou il n'a pas pu avoir toutes les informations. Et ce service numérique permet justement d'avoir un accès au quotidien à ce qui se passe dans sa formation, mais de manière numérique, donc sans obligatoirement avoir la nécessité d'être présent physiquement à l'université.
Voilà, et bien Denis Migaud, je vous remercie pour ces réflexions, ces informations, et puis à bientôt sur nos sites respectifs.
Oui, merci beaucoup.